7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM.
7h46, merci d'être avec nous, 30 ans de mandat local et puis donc ce poste au Sénat, élu au Sénat au mois de septembre dernier. Nous sommes avec le sénateur de l'Allier, Bruno Rojouan, ce matin, bonjour.
Bonjour, bonjour Damien, bonjour à tous.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation pour faire le point donc de ces 5 mois au Sénat. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est ça y est, vous avez pris vos marques sur place?
Oui, c'est fait. C'est fait, il y a en gros... On va dire que je suis arrivé au Sénat le 1er octobre. Il m'a fallu à peu près un mois pour comprendre comment fonctionnait cette institution nationale. Et puis après, ben, rentrer dans tout le, et utiliser toutes les possibilités qu'offre le Sénat. Et je peux dire que, en fait, je ne suis pas déçu. Je savais déjà effectivement à peu près à quoi servait le Sénat. Mais ces 5 mois de pratique m'ont montré que le Sénat était un outil est essentiel de notre démocratie et qu'il jouait ces deux rôles que j'imaginais, qu'on j'avais déjà entendu parler bien sûr par mes prédécesseurs, c'est-à-dire ce rôle qui consiste à être un peu pondérateur, modérateur et en même temps finalement être force de proposition, mais aussi force de contestation par rapport à l'Assemblée nationale et au gouvernement en place.
Mmh, ouais, bien sûr. C'est quand même un changement de dimension pour vous qui avez été élu local, je le disais, pendant tant d'années. Finalement, oui. Là, c'est voilà, il faut s'adapter à ce nouveau monde finalement.
Oui, ce qui me change énormément, c'est de vivre à Paris une grande partie de mon temps. Et ça, vous voyez, je suis dans mon bureau au Sénat là. Et donc pour l'anecdote, hein, je suis arrivé ce matin à pied. Je vais pas le cacher, hein, j'ai un studio meublé pas très loin du Sénat. Je viens à pied, je pars en général de l'Allier le lundi, je rentre le jeudi. Pour faire un travail efficace au Sénat, il faut être présent au Sénat, c'est indispensable, tout en ayant ce passé qui me permet de connaître et de savoir ce que souhaitent les élus de l'Allier, puisque je rappelle que le Sénat est quand même la représentation des territoires. Et donc, les sénateurs se ressemblent un peu tous, nous avons globalement un passé d'élu local assez long, et c'est ce passé d'élu local qui nous permet aussi, eh bien, de pouvoir prendre des décisions ou réorienter des décisions vers quelque chose qui correspond plus à ce que les territoires souhaitent.
Alors vous devez faire du coup, vous faites le trajet Allier-Paris très régulièrement. La question des transports est une question centrale évidemment dans le département. Voilà qui m'amène à ma première question de fond. Je crois que vous allez vous engager sur notamment la ligne Montluçon-Bourges.
Oui, c'est un dossier que j'essaie de reprendre en ce moment. Alors, l'avantage d'être sénateur, c'est que vous êtes en contact avec le gouvernement quasi hebdomadairement. C'est-à-dire que chaque semaine, vous avez l'occasion de rencontrer les ministres. Moi, il y a 3 ministres finalement qui m'intéressent particulièrement. Il y a donc, vous devez dire, Jean-Baptiste Djebbari, qui est le ministre chargé des transports et qui a donc à cette compétence effectivement de voie ferrée. Il y a Jacqueline Gourault qui est chargée de la cohésion des territoires, donc tout ce qui concerne l'organisation des collectivités. Et puis, il y a Cédric O qui est chargé du numérique. Donc, j'ai choisi de ne pas me disperser, si vous voulez, et de plutôt me focaliser, de travailler sur un certain nombre de dossiers qui concernent le département. Donc, vous venez de le dire, reprendre ce dossier, voir un peu comment on va essayer de pouvoir améliorer les choses. Et vous voyez, hier, par exemple, j'ai à nouveau vu Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports, pour lui dire, écoutez, venez à Montluçon, parce que, on va dire d'une manière générale, sur Vichy et Moulins, la situation du train n'est pas extraordinaire, mais elle est quand même nettement meilleure pour rejoindre Paris que à Montluçon. Et donc, venez à Montluçon, venez nous rencontrer. J'en ai d'ailleurs parlé avec Frédéric Laporte, le maire de Montluçon. Essayons de voir ce que l'on peut faire parce que si on a toujours ce projet de ligne à grande vitesse, on sait très bien que ce projet de ligne à grande vitesse ne se fera pas demain. Donc, en attendant, il faut prendre un certain nombre de dispositions. Le numérique aussi, avec le ministre
juste
Frédéric
rapidement,
Coe,
si j'en reviens,
qui est venu dans l'Allier.
Si j'en reviens juste sur les transports, donc l'invitation est lancée pour le ministre des Transports à venir se rendre compte finalement de la situation enclavée du bassin montluçonnais en la matière, c'est ça?
Bien sûr, parce que je considère que pour notre bassin montluçonnais, c'est maintenant la priorité, parce que du point de vue routier, maintenant, on peut considérer que avec le chantier RCEA, etc., on va avoir un désenclavement parfait du bassin Montluçonnais et du département de l'Allier. Le département de l'Allier a encore un problème qui est avec la RN7 et puis le contournement de Vichy, dont on parle beaucoup en ce moment d'ailleurs, parce que il y a les discussions en cours sur ce qu'on appelle les contrats de plan État-région, si vous voulez, les partages de financement. Mais donc, sur notre bassin Montluçonnais, effectivement, la liaison avec Paris doit constituer une priorité de travail pour les temps qui viennent.
L'invitation est lancée, donc on va voir ce que répondra évidemment le ministre. Vous parliez numérique, évidemment. Vous êtes intervenu il y a quelques jours sur la question de la couverture mobile dans le département. Alors il y a les chiffres, les statistiques qui annoncent 99% de la population en gros couverte. Mais ce que vous avez dit au ministre, c'est que dans les faits, c'est pas exactement ça. Allez en parler aux habitants de Théillé-Argentine. Nous recevions la maire il y a quelques temps. C'est un petit peu ça.
Oui, bien sûr. Mais nous connaissons tous ça. Les Bourbonnais connaissent la situation quand on se déplace. Effectivement, que nous n'avons en général qu'un seul opérateur, nous sommes abonnés qu'à un seul opérateur. Donc, quand on nous dit 99% du territoire couvert, c'est complètement faux, puisqu'il faudrait avoir au moins 2 ou 3 abonnements pour pouvoir avoir une couverture globale. Donc, il y a le gouvernement et le ministre qui est venu, lui, il n'y a pas si longtemps dans l'Allier, d'ailleurs 2 fois, est tout à fait sensible à ça, mais il faut prendre des décisions pour obliger un opérateur à couvrir les autres pour que effectivement au moins déjà sur des territoires où il y a du réseau, eh bien un abonnement permette effectivement de pouvoir accéder au numérique. Alors le numérique, attention, ce n'est pas simplement le fait de vouloir effectivement être couvert, c'est véritablement de l'aménagement du territoire maintenant. On a vu, bon, faut voir si sur le long terme ça tiendra, mais on a vu dans beaucoup de communes de l'Allier, notamment des petites communes, avec la crise Covid, avec plutôt les confinements, le confinement numéro 1 principalement, on a vu des gens de la plaque clermontoise ou de la région lyonnaise acheter des maisons qui ne se vendaient pas depuis des années et venir un peu se mettre au vert. Si ces gens-là, on veut les conserver en résidence principale, il faut qu'ils puissent accéder au réseau sans aucune difficulté pour pouvoir peut-être choisir le télétravail qui est quasi obligatoire aujourd'hui pour ceux qui le peuvent, ouais, mais qui plus tard va devenir une option indispensable dans le cadre de sa profession. Donc, il nous faut aussi, pour le développement de notre département, il nous faut des accès au réseau facile partout.
Voilà, intervention donc sur la couverture mobile. Vous avez une réponse d'ailleurs du gouvernement qui dit, et le ministre et le secrétaire d'État en charge du numérique étaient venus l'annoncer d'ailleurs, il va y avoir déploiement de pylônes, etc. Mais vous dites oui, effectivement, que c'était cet échange-là entre opérateurs pour que les zones soient davantage couvertes, c'est une priorité, quoi.
Oui, et puis on a surtout la chance d'avoir derrière les partenariats et la puissance importante de la région, du conseil régional et du conseil départemental, qui sont à fond sur ces thématiques-là et qui jouent un jeu de premier ordre dans le Bourbonnais.
Vous êtes intervenu également récemment sur une inquiétude, la hausse de la délinquance en zone rurale. Alors vous avez pris notamment les chiffres de la délinquance de l'année dernière en zone gendarmerie, forcément plus rurale qu'en zone police. C'est quelque chose qui vous inquiète, ça, y compris dans le département?
Alors, ça m'inquiète, oui, bien sûr, ça m'inquiète. Mais alors, il faut bien que, soyons clairs, quand on dit augmentation de la délinquance, certes, c'est classé dans la catégorie de la délinquance, mais c'est l'augmentation des violences. Ouais. C'est les violences. Et on ne peut pas nier que l'actualité de confinement, l'actualité de couvre-feu, finalement, pousse un peu, malheureusement, à l'augmentation des violences intrafamiliales ou entre groupes d'une même gens qui se fréquentent régulièrement. Donc, je pense qu'il y a un effet loop qui est donné par le fait que nous soyons dans une situation où les gens sont plus enfermés chez eux, sont plus présents chez eux, et pour certains, il est certainement plus difficile de se supporter. Donc, les violences sont en augmentation de manière importante dans le milieu rural. Je pense aussi, si vous voulez, qu'il n'y a pas de lien, si vous voulez, avec le fait que la gendarmerie, que ce soit en zone de gendarmerie, ouais. Les gendarmes font un travail absolument extraordinaire, mais les distances sont de plus en plus longues, les territoires couverts par les gendarmes sont très très vastes, et donc il y a des réorganisations qui sont en place, d'autres doivent être pensées et repensées pour effectivement essayer de d'arrêter cette augmentation des violences dans le secteur, dans le milieu rural.
Bruno Rejoint,
elles ont diminué dans le milieu urbain. Ouais. Alors attention à la limite, ce qu'on appelle, parce que c'est pas toujours vrai ce qu'on dit là, c'est-à-dire que la gendarmerie n'est pas systématiquement en rural et la police n'est pas systématiquement en urbain. Il y a les zones semi-rurales, semi-urbaines, qui joue aussi un rôle dans ces pourcentages.
Il nous reste moins d'une minute, Bruno Rejoint, juste un sujet que je voulais évoquer. Je crois que vous avez posé une question au gouvernement en attente de réponse là-dessus. Sur la nécessité de maintien des accueils physiques dans les établissements bancaires, on voit que beaucoup plus de services aujourd'hui des banques se font via des applis mobiles ou des choses comme ça. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut être attentif, notamment dans un département comme l'Allier, où on a beaucoup de seniors qui ne maîtrisent pas forcément ces technologies-là.
Écoutez, ma théorie, dans quelques temps, d'ailleurs, je vais intervenir donc dans l'hémicycle sur l'aménagement du territoire. On va voir cette thématique qui va être traitée. J'ai demandé à être inscrit dans le débat sur ce sujet-là. Ouais. Je prends le cas de l'Allier très simple. Si vous voulez, on a nos trois villes, et puis autour de nos trois villes, nous avons, enfin, dans le secteur rural, on a à peu près 25 communes qui sont des communes qu'on appelle des pôles de services intermédiaires qui jouent un rôle indispensable pour la proximité. On a vu depuis des années les petites communes avec le retrait des services publics dans ces petites communes, mais maintenant j'ai l'impression, et là pour moi c'est vraiment une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir, c'est le fait que dans ces communes-là, eh bien maintenant les services publics sont aussi menacés. Mmh. Donc si vous voulez, si on continue cette chaîne-là, eh bien ces communes qui jouent ce rôle un peu d'irrigation des territoires ruraux, à ce moment-là, s'il n'y a plus personne et que l'on dit que le numérique remplacera tout ça, eh bien, on va aller encore plus vers la fracture dite des territoires, qui est quand même une inquiétude énorme pour la plupart des sénateurs ruraux dont je fais partie.
Merci Bruno Rejoint d'avoir été avec nous ce matin.
C'était un plaisir.
Bonne sénateur de l'Allier, merci d'avoir été avec nous pour ces 5 mois donc au Sénat. Il est 7h58 sur RJFM, on est un peu en retard, à tout de suite.
7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM.